Chapitre 3. 2 heures ont passé. Il va en être 8. Adèle Baron est toujours dans sa chambre, assise sur la chaise où elle s'est laissée tomber au sortir de cette conversation. Oui, ces 2 heures ont passé ainsi, sans qu'elle s'en doute, dans la tourmente de trop de sentiments contradictoires. La reconnaissance passionnée d'un cœur qui vaut mieux que sa vie et qui, pour la première fois, vient d'être traité comme il eût voulu mériter d'être traité toujours, l'ardeur d'un amour encore accrue par la complicité dans le crime et par le commun avilissement, la terreur de l'événement tout proche et la fièvre de l'incertitude. Que faire? Où trouver Jules maintenant? Aller l'attendre sur le trottoir, devant l'hôtel, pour l'empêcher d'entrer, en l'avertissant que le projet de Mrs. Risley a changé? Ça avait été la première pensée d'Adèle. Et le profil du fionneur s'était dessiné devant son esprit, si dur, si défiant, avec ce regard froid chargé de menaces. Il ne la croirait pas. Il voudrait passer outre, monter, vérifier par lui-même. Essaierait-elle de l'arrêter? Elle avait distinctement aperçu cette scène, Jules la repoussant, la frappant peut-être, les passants attroupés, un sergent de ville s'interposant, la conduite au poste. Et sa moelle s'était glacée dans ses os à l'idée de l'arrestation, alors qu'elle savait la police déjà en éveil sur les agissements de leur bande. Non, non, ce moyen n'était pas possible. Si elle restait dans l'hôtel tout simplement et qu'elle guetta dans le couloir l'arrivée du malfaiteur. Une dispute entre eux serait impossible là. Trop de personnes traversaient les corridors. Oui, s'était-elle dit, c'est la chose à faire. Et puis, une autre épouvante l'avait saisie, non plus des violences de son amant, mais de sa propre faiblesse. Une autre image avait surgi dans son cerveau, celle de cet amant, non plus cruel, non plus menaçant, mais tendre. S'il lui demandait de le recevoir dans sa chambre, de le cacher, pour tenter ensuite dans la nuit le cambriolage projeté, s'il exigeait d'elle, puisqu'il était là, tout placé pour les emporter, qu'elle volât les perles elle-même, il s'en irait avec ce butin, sans qu'on pût la convaincre, elle, d'y avoir participé. Oui, mais faire cela, elle, de ses mains, à cette personne qui venait de nouveau lui montrer cette affectueuse sollicitude. Non, non, et encore non. Quoi, alors? Adèle avait mis ses coudes sur une table, sa tête dans ses doigts, et elle s'abîmait dans cette méditation affolée, lorsque la pendule de la cheminée, ayant sonné 8 heures, elle se leva brusquement. Il ne s'agissait plus d'atermoiement. D'une minute à l'autre, Jules pouvait être là. Dans cette crise de suprême détresse, une idée, à laquelle l'infortuné n'avait pas songé, apparut soudain dans son esprit, et, aussitôt, les forces intimes de cette âme malheureuse se précipitèrent vers ce projet qui n'était que son émotion attendrie de tout à l'heure, mise en acte. Comment n'y avait-elle pas pensé plus tôt? C'était à Mrs. Risley qu'il fallait aller, oui, à Madame Risley, et tout lui dire, en lui demandant qu'elle ne dénonçât pas le guet-apens dont elle avait manqué être la victime et dont elle serait sauvée et pour toujours. Elle était si généreuse qu'elle ne voudrait pas faire arrêter la complice de Jules Bélière après cet aveu, ni Jules Bélière, puisque la dénonciation du bandit supposait celle de l'indicatrice. Mais parler, mais dire en face à cette bienfaitrice le détail de l'infâme machination qui avait fait d'elle une femme de chambre, et pourquoi? Ah, quelle honte! Une minute, cette impression fut la plus forte. Adèle prononça le « non, non » qu'elle avait jeté déjà ses précédents projets. Et tout de suite, elle y répondit par un « eh bien, si !» crié à haute voix. L'ancien cœur de la bourgeoise, élevé pour être une honnête femme, s'était réveillé et elle trouvait dans cet excès d'humiliation, cette souffrance expiatoire qui devient un besoin presque physique quand nous avons cessé de nous estimer. « Que ce sera dur !» gémit-elle encore. Et tout haut de nouveau, tant mieux. Haletante, elle s'élança hors de sa chambre. Elle courait pour ne pas se donner le temps de réfléchir. Et déjà, elle avait frappé à la porte du salon. Dieu, que la douce voix qui lui répondit « Entrez !» lui fit mal à entendre. Mrs. Risley était toujours étendue sur la chaise longue. Elle avait auprès d'elle une petite table, les restes de son frugal repas, une soupière d'argent avec un peu de consommé et des raisins sur un plateau. À la vue de sa femme de chambre, et en proie à quelle agitation, elle poussa un léger cri de surprise. « Vous êtes déjà revenue, Aurélie. Que se passe-t-il »« Il se passe que je vous ai trompée, madame, que je ne suis pas une femme de chambre, que je ne m'appelle pas Aurélie, que je suis la maîtresse d'un voleur qui, dans 5 minutes peut-être, entrera ici. Il se passe que j'ai fait faire une fausse clé pour ouvrir votre coffret à bijoux, qu'il sait où sont vos perles. Il se passe que je ne peux pas supporter l'idée que cette chose ait lieu après que vous m'avez traité si délicatement, si généreusement, là encore tout à l'heure. Ah, n'appelez pas !» Mrs. Risley s'était levée, en effet, tandis qu'Adèle lui parlait. « Vous n'avez rien à craindre de moi, vous le voyez bien. Et lui, ah lui, je ne peux pas l'avoir livré, je ne peux pas. Fermez seulement les portes à clé avec le verrou en dedans. S'il veut entrer, il lui faudra appuyer sur le battant. Vous parlerez, il saura que vous n'êtes pas sorti. Il s'en ira. S'il ne s'en va pas, alors vous vous échapperez par l'autre pièce. Vous irez chercher du secours. Tenez, laissez-moi faire. » Rapidement, le geste suivant les paroles, Adèle avait couru vers la porte de l'antichambre. Elle l'avait fermée, en effet, de 2 tours de clé, puis elle avait poussé la gâchette du verrou intérieur. Non moins rapidement, elle avait passé dans la chambre à coucher et exécuté la même opération. Une porte donnait, de la salle de bain attenante, sur l'escalier de service. Elle la verrouilla de même. Ensuite, elle revint auprès de l'Américaine, qui demeurait paralysée de surprise devant cette scène d'une effrayante signification dans sa hâte silencieuse. Comme les deux femmes se tenaient ainsi, l'une près de l'autre, et avant qu'elles n'eussent repris assez de force dans leurs troubles respectifs pour recommencer de se parler, un bruit venu de l'antichambre les fit tressaillir jusque dans la fibre la plus secrète de leur être. Une main tournait le bouton de cette porte. La résistance inattendue de la serrure étonna le malfaiteur qui secoua le battant, mais d'une pression encore faible. « Parlez, madame, parlez !» supplia Adèle à voix basse. « Qui est là ?» cria madame Risley. Sa voix déjà ne tremblait plus. Elle se retrouvait la fille d'une race d'énergie en présence d'un danger réel. « Oui » répéta-t-elle plus haut. « Qui est là ?» et marchant hors du salon vers la porte, « Si vous ne répondez pas, je sonne !» Elle perçut distinctement le souffle qui trahissait le battement de cœur du bandit. Elle eut le courage de mettre elle-même la main sur la poignée et de tourner comme si elle se préparait à ouvrir. Un bruit de pas qui s'étouffait sur le tapis lui apprit que l'homme s'éloignait. « Il est parti, » dit-elle. « Je vais sonner maintenant et prévenir que quelqu'un a voulu entrer dans la chambre pour qu'on place un gardien cette nuit dans le corridor. » « Et vous ? » ajouta-t-elle en prenant la main de sa compagne. « Je veux que vous ne me quittiez pas maintenant. Il faut que vous me racontiez votre vie. Je veux tout savoir, tout. »